Je bénis encore le Seigneur qui permet à ce que je sois devant vous ce matin, cet après-midi, excusez-moi. Je fais tellement de prédications la semaine passée, j'étais à Poitiers. C'est une église sœur de notre église, la Saint-Marc, qui se trouve à Poitiers. Je leur ai exhorté un peu. Et j'aimerais que vous puissiez aussi recevoir des salutations qui viennent de cette église qui, en ce moment, traverse un peu des moments difficiles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de pasteur et souvent, il y a un phénomène qui se passe quand il n'y a pas de berger. Les brebis font quoi ? Ils se dispersent. Et c'est ce phénomène qui se passe là-bas. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment prier pour cette église qui est une de nos églises sœurs. Voilà. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais bien partager avec vous ce thème qui dit la vie dans la volonté de Dieu, ou en quelque sorte vivre par la volonté de Dieu. Et notre sœur nous a lu ce passage de Jacques chapitre 4 à partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. Ce passage que nous allons parcourir ensemble et trouver quelques vérités dedans, dans ce passage. Je vais le relire encore une fois de plus sur la version que j'ai ici. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et ce passage ici, nous voyons que Jacques s'adressait à des commerçants à l'époque, à des commerçants chrétiens de l'époque, qui savaient bien, qui connaissaient bien Dieu. Et il a observé de quelle manière les gens pensent et parlent, et comment ils préparent aussi leur avenir avec beaucoup d'assurance. Ils sont tout à fait incohérents et croient qu'ils vivent dans un monde qui est paru hasard, un monde par hasard comme cela. Et pour ces gens, la vie n'a pratiquement aucune signification dans son ensemble. Et cela aussi peut se remarquer aujourd'hui. Il y a des gens qui croient que nous existons dans un monde incapable de se comprendre et ils nient même la possibilité qu'il y ait un être élevé au-dessus de tout. Une voix qui dit aux hommes ce qu'ils sont. Et cependant, certaines personnes préfèrent mettre leur projet en avance plutôt que de mettre Dieu devant. Et ça, c'est vrai. Dieu, dans son plan, veut que nous soyons meilleurs. Mais dans tout cela, nous devons être patients aussi dans tout cela. Et dans ce passage, la première chose que Jacques observe ici, chez l'être humain, c'est qu'il est présomptueux, c'est-à-dire qu'il a trop confiance, il a une haute confiance en lui-même, il se sent assuré en lui-même. Il dit ceci au verset 13, « Vous parlez de voyage, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Il y a aussi ceci, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ces gens font des projets et ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Ils devraient plutôt dire si Dieu le veut. Bien-aimés, nous sommes appelés ici à planifier ce qui doit être fait. Et c'est vrai, c'est bien. C'est à nous d'arranger les choses, c'est à nous de faire des programmes, c'est à nous même de faire des actions. Mais le danger dans tout cela, c'est quoi? C'est d'oublier la présence de Dieu, c'est d'oublier le Seigneur. Lorsque Dieu ne fait pas partie de nos plans, il y a une déviation en tant que chrétien. Et lorsqu'on dévie, on devient orgueilleux. Lorsqu'on se soucie, on ne se soucie pas de Dieu dans nos projets ou dans nos plans, on pense et on agit comme des athées. C'est exactement ça. Et Proverbe chapitre 27, verset 1, nous dit ceci, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. » Et nous voyons aussi, dans la vie parfois, on voit des militaires partir en service, un pompier qui va faire son travail d'éteindre l'incendie, des gens qui voyagent par des bateaux, par des avions ou par voiture, des fonctionnaires qui vont au travail. Mais ces gens, parfois, ne savent pas ce que le lendemain va apporter. Ils ne savent pas ce qui va arriver après. C'est pour cela, bien-aimés, il ne s'agit pas ici d'être chanceux. C'est pour ça que la Bible nous dit, la Bible nous recommande ici, il nous dit « à vous maintenant ». Au premier passage, à vous maintenant, ce qui veut dire réveillez-vous. Il ne s'agit pas dans la vie d'être chanceux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous vivons sous la grâce de Dieu. Le mot chance dans la Bible n'existe pas. Et on ne peut pas garantir une année de vie sans la présence de Dieu en nous. La deuxième chose que Jacques observe ici chez l'homme, c'est quoi? Il oublie aussi ses limites. Ils ignorent totalement ce qui va leur arriver demain ou dans le futur. Vous qui ne savez pas, le verset 14 nous dit ceci, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est ça. On peut aussi se rappeler de cet homme riche insensé, qui pensait qu'il avait planifié quelque chose qui le mettrait en sécurité pendant toute sa vie, mais qu'il a oublié de planifier quelque chose pour sa mort. On peut le relire dans Luc chapitre 12, verset 13, cet homme riche insensé. Luc chapitre 12, verset 13 à 21, c'est juste un exemple. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge, pour faire votre partage ?» Puis leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Même s'il est dans l'abondance, il leur dit ensuite cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je veux faire. » Se dit-il, « J'abattrai mes greniers, je construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui? Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors et ainsi de suite. Voilà l'exemple de quelqu'un qui n'a pas planifié, qui a bien planifié sa vie, mais a oublié par ignorance de mettre Dieu à la première place. Et le verset 15 nous dit ceci, « Si Dieu le veut », c'est ce que nous devons plutôt dire plutôt dire « si Dieu le veut ». Et cette phrase, au verset 15, cette phrase en tant que chrétien que nous sommes, doit faire partie de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est à Dieu de décider. Au lieu de « je », l'égocentrique, mais plutôt dire à la place « si Dieu le veut, je ferai ceci ». C'est à Dieu de décider si j'irai en vacances. C'est à Dieu de décider si je me marierai. C'est à Dieu de décider si je veux faire ceci ou cela. Bien-aimés, je ne connais pas vos projets ce matin. Les projets qu'il y a dans vos pensées, cet après-midi, pardon. Je ne connais pas aussi vos projets que vous avez faits en 2016. Est-ce que la volonté du Seigneur y est dedans ? Dans tout ce que vous avez planifié, cette année 2016, voilà ce qui doit se passer cette année 2016. Et nous devons aussi faire attention de ne pas tomber dans cette erreur qui s'est passée dans 1 Samuel, chapitre 8, lorsque le peuple d'Israël était théocratique, et est devenu démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire comme les autres. Nous pouvons le lire rapidement. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 12 et chapitre 1 Samuel chapitre 8. Lorsque Samuel devient vieux, la Bible nous dit ceci, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà maintenant vieux et tes fils ne marchent pas sur les traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Ce qui n'était pas dans la volonté du Seigneur. Parce que les autres font ceci, moi aussi je veux faire cela. Ils ont oublié la volonté du Seigneur. Cela alors déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit ceci à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Voilà comment des personnes peuvent faire des choix dans la vie, peuvent faire des projets, mais sans pouvoir consulter Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait cela ? Vous pouvez le lire après. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Indépendamment de sa volonté, il a quand même donné un roi. C'était Saül, le premier roi d'Israël. Mais il a donné un roi avec des conséquences. Indépendamment de sa volonté aussi, il peut nous donner. Lorsqu'on insiste, que Seigneur, moi je veux ceci. Lorsqu'on insiste, le Seigneur aussi peut faire quelque chose indépendamment de sa volonté, mais il fait pour ta volonté, mais accompagné des conséquences qui seront bien pour t'instruire. C'est ça, c'est ce qui se passe lorsque nous ne mettons pas la volonté de Dieu devant. Et est-ce que la volonté du Seigneur est dans ta vie, dans tes projets ce matin? Jacques se sert ici de quoi? Il se sert d'images comme vapeur pour définir que la vie passe très vite. La vie est trop courte, elle disparaît si vite. C'est pourquoi la vie avec le Christ commence ici. Commence maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre le salut demain, mais c'est aujourd'hui. Mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour démontrer ma vie chrétienne? Quelle est la volonté de Dieu dans la vie chrétienne que je fais aujourd'hui, que je vis aujourd'hui? Et tout cela est écrit dans Matthieu chapitre 6, vous pouvez le lire à la maison. C'est avoir une attitude qui touche le caractère de la vie chrétienne. Faire confiance en Christ, ne pas avoir peur du lendemain. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est quoi? Est-ce que je le connais assez Est-ce que je connais assez ce Jésus-Christ-là pour lui faire confiance? Est-ce que je le connais bien? Pourquoi oublions-nous, bien-aimés, nos limites? En tant que créatures, et agissons-nous comme si nous étions des dieux? Pourquoi cela? Pourquoi nous oublions nos limites? C'est la troisième chose ici que Jacques va nous dire. C'est parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Au verset 16, il nous dit ceci. « Et maintenant, vous qui vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses, c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. » Bien-aimé, dans ce passage, il y a deux problèmes que Jacques soulève ici. Il y a d'abord la première chose, c'est l'orgueil. Et la deuxième chose, c'est le péché d'omission. Le péché d'orgueil, bien-aimé. Nous avons des exemples dans la Bible. Dans Daniel chapitre 4, verset 30, nous voyons ce grand roi, Nabucodonosor, pour certaines personnes, et d'autres disent Nabucodonosor. Qu'est-ce qu'il a fait? Un grand roi de Babylone qui se promenait dans son palais royal à Babylone et qui dit ceci, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence ?» Quelqu'un qui est en train de se glorifier. Et qu'est-ce qui est arrivé à la suite lorsque nous lisons Daniel chapitre 4? Il a été réduit au plus bas niveau même qu'un animal sauvage. La Bible nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. Nous avons encore un autre exemple. Ça, c'est il n'y a pas très longtemps, si vous connaissez cet artiste, ce musicien John Lennon, qui a dit en 1966, qui disait « Le christianisme va disparaître, mais nous maintenant, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. » À cette époque-là, 66, moi je n'étais pas encore né, mais c'est ce qu'il disait. C'était un artiste talentueux, mais le problème c'est que tout cela est passé, mais le Christ aujourd'hui, il demeure toujours. On continue à prononcer, à proclamer le Christ, et les églises continuent à grandir. Et lui, il est passé. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous avons aussi dans Actes chapitre 12, verset 21, le roi Hérode. Revêtu de ses habits royaux plutôt, et assis sur le trône, disant des très beaux discours publiquement. Et qu'est-ce que le peuple criait? Le peuple criait, ça c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et la Bible nous dit, au même moment quand il faisait ça, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par des vers. Je ne sais pas s'il y a une maladie comme celle-là qui existe aujourd'hui. Voilà. La Bible nous dit qu'il expira rongé par le ver à cause de l'orgueil. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. Et lorsque les hommes aussi, lorsque les hommes vivent sans Dieu, ils se tournent parfois vers leurs semblables. Pour les adorer. C'est ce qui pourrait se passer lors de matchs de foot où on glorifie des héros. Le mot glorifier ici, au verset 16, signifie jubiler et se réjouir en quelque chose ou en quelqu'un. Et ce mot est utilisé pour adorer normalement Dieu. Mais ici, il est utilisé par Jacques pour montrer les hommes qui se glorifient dans leurs pensées orgueilleuses. Mais nous, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, nous devons plutôt nous glorifier de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est sorti victorieux de sa croix. Galates chapitre 6, verset 14. Nous devons plutôt glorifier, la Bible nous recommande de glorifier le Christ de la croix, celui qui a été victorieux, qui est mort et ressuscité. C'est celui que nous devons glorifier. Et dans la vie, bien-aimé, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont meilleures. Nous devons plus toujours chercher ce qui est meilleur. Que dois-je avoir de meilleur en temps, en ce temps de vie, en ce temps que je vis aujourd'hui? Et Jacques dit aussi que cette pensée orgueilleuse vient du malin. Depuis le commencement, le diable a semé des pensées orgueilleuses dans le cœur, même de nos premiers parents, Adam et Ève. Il a essayé de semer des pensées orgueilleuses dans le cœur du Fils de Dieu en disant que s'il se prosternait et adorait, il lui donnerait toutes ces choses qui font l'orgueil des grands de ce monde. Matthieu chapitre 4, verset 9. Notre façon de nous glorifier démontre que nous sommes des pécheurs parfois. Notre attitude, notre manière de faire peut montrer aussi que nous sommes des pécheurs dont le cœur est tortueux. Et c'est ce qui nous amène aussi à la deuxième source de problème, qui est le péché d'omission, qui peut nous amener au péché d'omission. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, bien-aimé. Nous savons bien que c'est mal de mentir. Nous savons bien que c'est mal de voler, de tuer, d'adorer des idoles ou encore de nous glorifier et d'avoir des pensées orgueilleuses. Nous en connaissons la raison. C'est parce que Dieu a mis en nous une conscience et cette conscience est une lampe dans nos vies que Dieu a donnée à l'homme pour examiner la profondeur de son âme, pour reconnaître que non, ce que je fais, c'est mal. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Dieu a mis en nous tout cela. C'est vrai, il y a de ceux qui se disent aujourd'hui que non, moi dans ma vie, je n'ai jamais péché, je ne pêche pas du tout, je ne fais rien de mauvais qui est contre la parole de Dieu. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne tue pas, je ne fais pas tout ce qui est mauvais, je ne le fais pas, je suis tranquille chez moi. Mais la question qu'on doit se poser, le bien que le Christ a dit de faire, est-ce que tu le fais? Parfois, il y a des gens qui se disent que non, je ne pêche pas, je ne fais. Ils font plutôt le. Il y a de ceux aussi qui font le contraire, qui font le bien. Je fais l'aumône, je partage ceci. Mais après, ils ne connaissent même pas le Christ. C'est ça aussi le problème qu'il y a, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils font le bien, ils font « Non, je n'ai pas besoin de Dieu, je reste tranquille, je ne vole pas, je fais tout cela. » J'ai entendu parler de ces gens, ça existe, mais qui ne connaissent pas Dieu. C'est difficile. Nous connaissons bien, bien-aimés, l'enseignement de Jésus-Christ qui nous dit que vous devez aimer Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme Dieu vous-même. Comme vous-même plutôt. Vous connaissez bien l'enseignement qui dit ceci. Nous connaissons très bien l'enseignement de Jésus qui dit que vous devez aimer vos prochains, vos ennemis. Nous connaissons bien cet enseignement de Jésus-Christ qui dit que vous devez pardonner 77 fois à quelqu'un qui vous fait du tort ou qui vous fait du mal. Nous connaissons bien l'enseignement de Jésus-Christ qui dit ceci, que vous devez tendre l'autre joue lorsqu'on vous a déjà frappé une première fois sur l'autre joue. Vous connaissez bien, nous connaissons bien cet enseignement de Jésus-Christ qui dit que vous ne devez pas, vous devez garder votre conjoint, vous devez ne pas déconner dans le mariage. Nous connaissons bien l'enseignement de Jésus-Christ qui dit ceci, vous ne devez pas vous contenter d'écouter, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous connaissons tout cela. Nous connaissons bien l'enseignement de Jésus-Christ qui dit ceci, que quiconque veut venir avec lui, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour le suivre. Nous connaissons tout cela. Nous connaissons aussi l'enseignement de Jésus-Christ qui dit que quiconque croit en lui doit se repentir, se détourner de ses péchés et marcher dans la vérité. Nous connaissons tout cela, bien-aimés. Mais est-ce que nous obéissons à cela? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et dans Matthieu chapitre 25, à partir du 34e verset, Matthieu chapitre 25, à partir du 34e verset. Voilà. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Bien-aimés, nous voyons ici qu'il s'agit d'une liste. Il ne s'agit pas ici d'une liste de péchés qui ont été commis. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit ici d'une liste de biens qui devaient être faits, mais qui n'a pas été complètement faite, qui a été complètement ignorée. Le bien, faire le bien à autrui, faire le bien à l'autre. Vivre dans la volonté du Seigneur, vivre selon la volonté de Dieu. C'est mettre Dieu à la première place de nos projets. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est aussi faire le bien à d'autres personnes. Pas seulement à ceux que nous connaissons, même à ceux que nous ne connaissons pas. Dieu soit loué que l'année passée, dans le rapport, j'ai vu que vous étiez en Afrique, vous êtes allé visiter des gens que vous ne connaissez même pas et vous continuez à soutenir. Et Dieu bénit beaucoup. Et moi, je me dis toujours que nous avons été bénis pendant plus d'un siècle par la SEMA. La SEMA, qui est le Congo, qui était le premier pays missionnaire de la SEMA. Et pendant plus d'un siècle, il y a des gens qui envoyaient des dons au Congo pour évangéliser l'Afrique centrale. Et les bénédictions allaient où c'est? les bénédictions rentraient aux États-Unis. Bien sûr, on a reçu quand même une part des bénédictions, parce que voilà, mais ça rentrait plus aux États-Unis, à ceux qui donnaient à des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, parce que j'ai bénéficié aussi de ce don-là, de mes arrière-grands-pères, ça fait plus d'un siècle. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous devons continuer. La Bible nous exhorte à continuer de faire le bien. Faire le bien à ceux qu'on connaît. Ne faut pas avoir de doute. Ne pas avoir de doute. Et nous devons même parfois crier de nos propres forces à Jésus-Christ afin qu'il vienne nous secourir de nos présomptions. Parfois, si nous pouvons avoir des idées orgueilleuses, de nos pensées orgueilleuses ou encore de ces péchés d'omission, il y a des choses parfois, nous devrions faire ce bien, mais nous ne l'avons pas fait. On a oublié. C'est pas qu'on l'a complètement ignoré parce que nous sommes des chrétiens, mais juste parce que on a oublié. Nous pouvons aussi crier et demander pardon au Seigneur dans tout cela. La Bible nous exhorte, bien-aimés, à examiner et à savoir où en sommes-nous dans cette relation avec le Christ. Au début, je sais que dans la Bible, Jacques parle à des commerçants qui allaient, qui vendaient, qui faisaient ceci. Mais aujourd'hui aussi, nous sortons de nos maisons, nous allons aussi travailler. Mais est-ce que Dieu est dans ce plan-là? Est-il dans nos plans? Est-ce que Dieu est-il dans nos projets? Est-il devant nos projets ou il est derrière nos projets? Et pour cette année 2016, il se peut que vous avez déjà tout bien planifié et fait des bons plans. Et vous avez même mis la volonté du Seigneur dedans. Ça, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, la Bible nous recommande de mettre Dieu devant dans tous nos projets que nous avons à faire. Et lorsque nous demandons quelque chose, bien-aimé, nous devons avoir aussi cette idée-là de demander à Dieu, Seigneur, je veux ceci. Je veux réussir cette année 2016. Mais s'il vient que je ne réussisse, que je ne puisse pas réussir, que ton nom soit glorifié. Pourquoi? Parce que ta volonté a toujours été la meilleure. Ce n'est pas parce qu'on va échouer qu'on va se morfondre devant le Christ, non. Si on ne réussit pas, ça vient aussi de la part de Dieu. Ça peut aussi venir de la part de Dieu, car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur Dieu, cette année 2016, voilà mon projet. Mais s'il advenait que je n'aie pas ce que je veux, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que je sais que ta volonté a toujours été la meilleure. Donc, on glorifie Dieu d'abord à la première place, et c'est enfin qu'il donne. Et c'est ce modèle de prière, c'est ce modèle de pensée que nous devons avoir devant le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Béni sois-tu, Éternel, pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir être nourris par toi, Seigneur. Merci de nous avoir rappelé, Seigneur, que parfois nous oublions, Seigneur, de te mettre à la première place dans nos vies. Nous faisons nos projets et nous t'oublions. Mais en tant que chrétiens, Seigneur, il nous est demandé de mettre ta volonté devant dans toute notre vie que nous faisons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été présomptueux, Seigneur. Pardonne-nous si nous avons oublié nos limites. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons péché contre toi par l'orgueil ou le péché de ne pas pouvoir le bien, faire le bien que tu nous as dit de faire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons de plus en plus des lumières dans ce monde, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te mettre toujours à la première place dans notre vie pour que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir rester humble afin que toi seul, tu puisses nous élever, Seigneur, au moment favorable. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu es bon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.